On va continuer dans ta sélection avec un morceau qui s'appelle Freedom. Alors voilà, quelques mots sur ce titre.
Alors avec Freedom, on va attaquer malheureusement la fin. Alors en quelques mots, on va un petit peu remettre le contexte. Finalement, le Band of Gypsies ne donne qu'un seul concert après les quatre concerts du Madison Square Garden. C'est le 28 janvier, je dis une bêtise d'ailleurs, c'est le 28 janvier au Madison Square Garden. Un concert qui se termine de manière catastrophique, c'est-à-dire Hendrix est malade et arrête de jouer au bout de deux morceaux. Le groupe se sépare. Et finalement, Hendrix continue l'aventure en faisant un petit peu la synthèse de ses précédents groupes. C'est-à-dire, il garde Billy Cox à la basse et reprend Mitch Mitchell à la batterie. Faut savoir que Hendrix a beaucoup enregistré, ne sort plus de disques. On commence à lui faire comprendre qu'il serait peut-être quand même temps de se mettre un petit peu au travail. Et donc, à partir du mois d'avril 70, a lieu ce qui sera la dernière tournée américaine de Jimi Hendrix. On appelle souvent The Cry of Love Tour. Et dans le même temps, Hendrix continue à travailler sur son fameux quatrième album studio, donc qui est inachevé. Mais alors que depuis un an, même plus d'un an, bientôt un an et demi, d'une manière générale, on ne peut pas dire que les sessions avançaient très très vite, je dirais enfin Hendrix se débloque et il s'avère que les dernières semaines de la vie d'Hendrix ont été des semaines incroyablement productives. C'est-à-dire, si on écoute ce qui serait devenu le dernier album d'Hendrix, alors en l'occurrence, on ne saura jamais exactement à quoi il aurait pu
Oui, parce
correspondre.
qu'il reste quelqu'un de perfectionniste, on ne sait pas jusqu'où il serait allé, on ne sait pas à quel point il aurait dit, bon, ouais, non, là on n'arrête pas parce que je ne suis pas encore satisfait.
De toute façon, il y a plein d'interrogations sur ce disque-là, parce qu'il y a différentes listes qui ont pu être faites à différents moments, mais ce n'est pas toujours les mêmes titres. Certains morceaux étaient plus ou moins en chantier. Et donc, je dirais, de toute façon, en l'espèce, on ne saura jamais ce qu'il aurait effectivement décidé. Il a parlé même de triple album à un moment. Bon, après, en même temps, la maison de disques aurait pu aussi lui dire, bon, il est peut-être temps de s'y mettre. Et si ça se trouve, il aurait sorti qu'un simple album. Ça, avec le business, on ne peut jamais savoir ce qu'il aurait fini par produire comme album. En tout cas, un truc est sûr, c'est que le Hendrix de la fin montre un Hendrix qui a encore une fois réussi à évoluer et changer son style. C'est-à-dire, si vous écoutez le morceau qui va venir, qui est un morceau qui s'appelle Freedom, vous allez voir en fait qu'en termes de composition, Hendrix a considérablement changé. Vous allez avoir des compositions qui sont beaucoup plus complexes, qui en fait intègrent énormément de figures rythmiques différentes, qui s'enchaînent les unes les autres. Et je dirais qu'effectivement, là pour le coup, ce n'est pas des musiciens amateurs qui vont s'amuser à jouer correctement Freedom, c'est des morceaux qui sont très compliqués à jouer. D'un certain point de vue, c'est presque une forme de jazz rock instrumental, quoi, mais sur lequel il y aurait du chant. Alors paradoxalement là-dedans, c'est qu'en fait, Hendrix en même a réussi aussi, dans cette mutation musicale, à avoir aussi un côté plus funky. Parce qu'il s'avère qu'évidemment, Noël Redding, qui n'était pas bassiste à la base et qui était anglais, ce n'était pas le prototype du bassiste de funk. Alors que là, pour le coup, vous pourrez apprécier les lignes de basse sur le morceau qui vient. Billy Cox, il groove sérieusement. Et donc vraiment, vous allez apprécier ce vers quoi se dirigeait Hendrix. Alors je pense que Freedom, c'est un bon exemple, parce que c'est un morceau qui n'est pas terminé. C'est-à-dire, en l'occurrence, si on écoute les versions pirates, on écoute. On sait qu'il y a un pont qui a été supprimé par Eddie Kramer par la suite. Et de même qu'il y a un petit solo, qu'à un moment Hendrix voulait changer, etc. Bon, là, c'est laissé tel quel. Et des titres vraiment finis du dernier album d'Hendrix, il en existe très peu. C'est-à-dire des morceaux à peu près finis, c'est 3-4, pas plus, quoi. Donc on ne saura jamais exactement ce que ça aurait donné. Alors, quand même, juste pour faire le point, pour ceux qui sont intéressés par le dernier Hendrix, qui à mon avis est tout à fait aussi riche que le premier. En fait, l'album inachevé d'Hendrix a connu différentes incarnations. À la mort d'Hendrix, Eddie Kramer, qui était l'ingénieur du son d'Hendrix,
Le taulier d'Electric Ladyland,
exactement, c'est un petit peu ça. Alors que pour le coup, j'ai eu l'honneur d'interviewer à la sortie du dernier album post-mortem d'Hendrix et me prendre la tête avec lui. Alors, en l'occurrence, Eddie Kramer avait travaillé avec Mitch Mitchell, qui était le plus proche collaborateur d'Hendrix. Et ils ont travaillé sur ce qu'allait être le dernier album. Parce qu'évidemment, Hendrix meurt le 18 septembre 1970, dans des circonstances là encore jamais totalement éclaircies. Et il se retrouve avec les bandes sur lesquelles il commence à travailler un mois plus tard. Et dans un premier temps, il livre un premier album qui s'appelle The Cry of Love, qui n'existait plus en CD depuis absolument des années. C'est le premier album studio post-mortem. Il a été rapidement suivi d'un autre disque qui s'appelle Rainbow Bridge. En gros, chez les fans. Grosso modo, pendant des décennies, c'est un petit peu les deux albums qu'on estimait être ce qui se rapprochait le plus, ce vers quoi Hendrik se dirigeait. En 1995, alors sachant qu'en plus il y a les rééditions CD qui sont passées par là, et le deuxième album, Rainbow Bridge, n'avait jamais été réédité en CD. Ce qui avait le don d'énerver les fans au plus haut point. Et à l'époque, Alan Douglas, qui a été le producteur d'Hendrix, producteur post-mortem d'Hendrix de 75 à 95, a décidé de remplacer la première tentative d'album post-mortem par un autre disque qui s'appelle Voodoo Soup. Alors, c'est un disque qui est amusant pour les amateurs, s'il y a des mixages différents de morceaux connus, mais franchement, le projet, c'est n'importe quoi. Le choix des titres a ni queue ni tête. Il y a des morceaux sur lesquels Hendrix ne travaillait plus du tout, qui ont été intégrés dans le projet. Et inversement, il y a des morceaux qui n'ont pas été sélectionnés parce que sa fille de 16 ans trouvait qu'ils étaient ringards. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment un disque post-mortem à retenir. Et en 97, a été tenté par la famille Hendrix, qui entre-temps avait repris les droits du guitariste, une dernière construction de cet album, qui s'appelait First Rays of the New Rising Sun, qui se voulait être plus fidèle que jamais au projet d'Hendrix. Alors, il s'avère qu'à titre personnel, je trouve que c'est complètement raté. C'est-à-dire, le choix des titres n'est pas optimal, l'enchaînement des titres l'est encore moins, et en plus, cerise sur le gâteau, alors là, j'ai parlé un petit peu technique, mais ça a quand même de l'importance, le mastering du disque est complètement catastrophique. Alors, le mastering, ça veut dire quoi techniquement? C'est-à-dire, c'est tout simplement, vous avez des bandes, et il y a un moment, vous, en tant que public, vous allez acheter un CD. Et votre CD, il est fait de telle ou telle manière. Là, en l'occurrence, et malheureusement, c'est aussi le cas des trois albums studio de Jimi Hendrix Experience, c'est des disques qui ont été remasterisés n'importe comment. C'est-à-dire, ils sont hyper loud, donc il n'y a aucune dynamique. D'un point de vue vinyle, c'est une catastrophe. Donc, au moment où je vous parle, si vous voulez découvrir Hendrix, rabattez-vous sur les vinyles. Parce que les vinyles, eux, par contre, ont été bien mieux faits que les CD. Alors, par contre, la bonne nouvelle, parce que des fois, il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'après des années, les producteurs d'Hendrix ont enfin décidé de ressortir The Cry of Love et Rainbow Bridge. Donc, c'est ressorti là, il y a juste quelques semaines. Donc, c'est ressorti en vinyle et en CD. Il s'avère que l'ingénieur du son qui a bossé sur le remastering est ni plus ni moins des meilleurs du monde. Il a fait un boulot absolument fantastique. Donc là, pour le coup, si vous voulez vraiment découvrir ce qu'aurait pu être au plus près le dernier projet d'Hendrix, voilà, vous n'hésitez pas, The Cry of Love et Rainbow Bridge sont ressortis. Et donc là, on a enfin Hendrix avec un son digne du maître. Donc je vous invite à écouter Freedom. Or, pour l'anecdote, bah d'ailleurs, c'est un titre qu'il a écrit sur sa petite amie de l'époque qui s'appelait Devon Wilson. C'est l'évolution d'un morceau de travail qui s'appelait Crash Landing, où en fait, là, Hendrix parle ni plus ni moins des problèmes d'addiction à l'héroïne de sa petite amie. Et donc, je vous laisse écouter Freedom. Yeah.
Et donc là, c'était Freedom, l'avant-dernier morceau de ta sélection, puisque ça passe vite, une soirée avec Jimi Hendrix.